Nathan et Sarah qui vont vous présenter leur animal.
En danger.
Jeu numéro 8.
Mon animal est un petit mammifère. Il appartient à la famille des rongeurs. Sa taille est entre 70 et 90 cm et il peut peser jusqu'à 30 kg. Il vit au bord des cours d'eau dans des régions froides comme au Canada ou en Russie, mais on le trouve aussi en Europe.
Il creuse un terrier au bord de l'eau avec un accès sous-marin pour être en sécurité avec sa famille. Il mange des plantes herbacées, des fruits et il adore les écorces de saule.
C'est un animal à la fourrure brune avec une longue queue plate qui l'aide à se diriger quand il nage sous l'eau. Il a de longues et solides dents jaunes qui lui permettent de ronger du bois pour fabriquer des barrages, c'est-à-dire des murets de bois dans la rivière.
Malheureusement, mon animal a beaucoup été chassé pour sa fourrure qui est très chaude et très douce, mais aussi pour une substance qu'il produit, le castoreum. Cette substance qui ne sent pas très bon est transformée et utilisée pour fabriquer des parfums. En France, sa population a donc beaucoup diminué.
Pour le protéger, sa chasse est maintenant interdite et on préserve les bords de rivière pour qu'il puisse se réinstaller. Grâce à mon animal, la biodiversité revient sur les berges des rivières, c'est-à-dire que de nouvelles espèces animales et végétales s'installent à nouveau.
Avez-vous reconnu mon animal ?
Bonjour, je m'appelle Kélana.
Bonjour, je m'appelle Flavio.
Jeu numéro 9.
Je suis un grand mammifère de la famille des ours. Je mesure de 1m50 à 1m80. Je pèse de 75 à 130 kg.
J'habite dans des forêts humides au centre de la Chine.
Je mange surtout des végétaux et j'adore le bambou. Je peux en dévorer jusqu'à 20 kg par jour. Ma fourrure est de couleur noire et blanche et mes mains ont un sixième doigt qu'on appelle faux pouce.
C'est très pratique pour attraper des bambous.
Mon espèce est en voie de disparition à cause de la déforestation de mon habitat, c'est-à-dire la destruction des forêts où j'habite.
J'ai aussi beaucoup de mal à me reproduire.
En liberté comme en captivité, car cela n'est possible que quelques jours par an. Heureusement, je suis très protégée depuis de nombreuses années par le gouvernement chinois. Tu peux admirer des membres de ma famille au zoo de Beauval, en France. Ils ont été prêtés par la Chine à la France. Deux bébés sont nés il y a quelques mois et ils sont en pleine forme.
Qui suis-je ?
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand. Et nous allons parler d'un sujet de toute actualité, puisqu'il s'agit des prix littéraires, avec un livre qu'a publié Arnaud Vivian aux éditions La Fabrique, Station Goncourt, 120 ans de prix littéraires. Arnaud Vivian, on ne pouvait pas mieux tomber, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on décerne le prix littéraire, le prix Nobel de littérature. Et vous arrivez juste à ce moment-là, pour parler de votre livre. Donc on peut pas mieux faire. Et c'est vrai que c'est un livre de toute actualité.
Oui, tout à fait. Là, on est dans la saison des prix, seront décernés en France au mois de novembre, pour la plupart. Et donc qui viendront terminer une séquence qu'on appelle la rentrée littéraire, qui commence fin août et qui donc s'achève en novembre.
Et s'achève en novembre. Alors bon, votre livre, vous dites, c'est un format court. Vous dites que les livres sur les prix littéraires ne sont jamais très longs. Lorsqu'on choisit ce sujet, il y a de la crainte. Si les livres sur les prix littéraires ne sont jamais très longs, c'est parce qu'aussi ils sont gênés aux entournures. C'est un livre court, presque un livre de poche. Je dirais presque un élixir de, pas de jouvence, mais un élixir où on réfléchit sur l'actualité littéraire, la vitesse de l'actualité littéraire, avec ce titre Station Goncourt. Est-ce que vous avez été tenté, parce que l'autre fois je vous avais reçu Arnaud Vivian pour un roman, est-ce que vous avez été tenté finalement de... Il y a un côté balzacien dans ce livre. Est-ce que vous avez tenté à un moment donné d'en faire un roman ? Vous auriez pu en faire un roman finalement ?
La fin ressemble un peu à un roman. C'est un essai qui se termine comme un roman. Lorsqu'on arrive dans les deux dernières pages, on comprend pourquoi ce livre s'appelle Station Goncourt. C'est expliqué donc à la fin, une fin réelle. Hein. Ce sont des faits réels, mais quand même très romanesque, un romanesque d'ailleurs dramatique, un romanesque triste. Et j'ai voulu faire un livre court d'abord parce que, comme vous le savez, les gens n'ont pas le temps de lire, tout simplement. Ils sont pris dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, attirés par des séries télévisées, toute autre sorte de loisirs, les jeux vidéo, peu importe. Donc le temps de lecture diminue pour chacun d'entre nous, d'ailleurs. Et donc je voulais faire un livre court. Et puis le sujet ne mérite pas non plus tant d'égards. Les prix littéraires, c'est une comédie humaine avec une foire aux vanités qui fait que on n'a pas envie non plus de s'apesantir sur cette chose. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait matière à réflexion puisque à travers la séquence des prix littéraires se révèle d'abord une histoire littéraire fondée à travers ces prix, à partir de la naissance du prix Goncourt en 1903. On a une histoire littéraire qui commence à s'articuler autour de la notion de prix, et le Nobel date lui de 1901, donc c'est deux ans avant le prix Goncourt. D'ailleurs, le prix Goncourt aurait dû commencer en 1901, mais il y a eu un problème avec les héritiers des frères Goncourt, qui fait qu'il y a eu une action en justice, parce qu'ils n'avaient pas trop envie, les héritiers des frères Goncourt, qui étaient immensément riches. Et eux avaient décidé de spolier, entre guillemets, leur famille, et de dire, cet argent va à la littérature et cet argent va financer donc ce qu'ils appelaient la Société des Goncourt, dont le but était d'abord de financer 10 écrivains qui étaient mensualisés sur l'héritage des Goncourt, et puis qui n'avaient qu'une seule fonction pour mériter ce salaire mensuel, qui était l'équivalent d'un salaire d'un fonctionnaire à peu près.
Oui.
Et il n'avait qu'une seule fonction, un seul devoir, c'était de décerner un prix au meilleur roman de l'année. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'est née la notion de prix littéraire, dans le monde d'ailleurs, parce qu'en fait, les frères Goncourt sont précurseurs, car s'il y avait bien des distinctions littéraires en France auparavant, elles étaient remises par l'Académie française. Et c'est d'ailleurs contre l'Académie française que se fonde l'Académie Goncourt, pour une bonne raison, c'est que l'Académie française, à cette époque, donc à la fin du 19e siècle, décernait des prix, mais refusait d'en décerner aux gens romanesques. Elle ne décernait des prix, l'Académie française, qu'à la poésie et au théâtre.
Ouais.
Et donc, parce que le genre romanesque était considéré comme un genre de gueux, un genre de roturier malséant.
Alors, en ce moment, c'est plus du tout le cas.
Non, là pour le coup, ouais. Mais très vite, ça n'a plus été le cas, au point que l'Académie française, dès 1913, c'est-à-dire 10 ans après la création du prix Goncourt, se sent obligée de créer un prix qui existe toujours, qui d'ailleurs est le premier des prix décerné dans la rentrée littéraire, qui est le prix du roman de l'Académie française. Mmh. Donc, ils ont bien senti qu'ils vont tourner, mais quand même, l'idée des Goncourt, c'était aussi de dire, voilà, il y a un genre qui est méprisé. Les Goncourt étaient très amis avec Émile Zola, avec Léon Daudet, et donc, le genre romanesque était leur genre à eux, ils écrivaient leur journal, ce qui les a rendus célèbres, mais ils écrivaient aussi des romans. Et donc, ils ne voyaient pas pourquoi donc le roman devait être méprisé à ce point. Donc voilà, les fondements, si vous voulez, de la création du prix Goncourt, qui d'ailleurs ont une répercussion aujourd'hui, toujours, puisque on considère que le prix Goncourt doit être remis, puisque c'est dans le testament des Goncourt, c'est-à-dire dans le règlement du prix, car ce prix a un règlement, c'est très important, que le genre qui doit être privilégié par-dessus tout est le roman. Et on sait que, par exemple, lorsque Philippe Lançon a publié Le Lambeau, qui parlait évidemment de ce qu'il avait subi avec l'attentat de Charlie et ce qu'il avait vécu comme séquence hospitalière, les opérations qu'il avait dû subir à la mâchoire, parce qu'il avait reçu des balles des terroristes dans la mâchoire, ce roman-là, ce livre-là, qui n'était donc pas un roman, avait été disqualifié par Bernard Pivot à l'époque, qui était le président du prix Goncourt, parce que ce n'était pas un roman. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, dans la liste du prix Goncourt de 2023, il y a plusieurs livres qui ne sont pas...
Lormura, par exemple.
Neige Chumeau, dont on parle beaucoup, pour Triste Tigre, où elle raconte qu'elle a été victime d'inceste, ne sont pas des romans.
Ne sont pas des romans. Mais ce que vous démontrez bien, d'abord, il y a beaucoup d'informations en filigrane. C'est un petit livre, Station Goncourt, on voit pas mal d'informations. Le fait que les jurés littéraires ne soient plus payés, ça a amené, d'après certains, l'idée qu'ils seraient corrompus, qu'ils trouveraient leur avantage ailleurs, qui serait un peu le fait de ne plus être payé, de ne plus être rémunéré. Et donc, ce que vous montrez aussi très bien, c'est qu'on ne va pas aujourd'hui... Une question se pose, on ne va pas changer la donne, c'est-à-dire on ne va pas annuler les prix littéraires, mais ils évoluent. C'est ce que vous dites là actuellement pour le prix Goncourt. Par exemple, quand Bernard Pivot arrive à l'Académie Goncourt, tout est changé. Lui-même, c'est un premier journaliste, parce que vous montrez bien l'évolution de l'homme, la notion d'homme de lettres. Arnaud Vivian.
Oui, tout à fait. Alors, parce qu'au début, ces prix sont composés, leurs jurys sont composés d'écrivains. Mmh. Et puis, très vite, assez vite en tout cas, à partir notamment du prix Renaudot, qui est fondé de mémoire en 1927, c'est-à-dire, vous voyez, 24 ans après le prix Goncourt, le prix Renaudot est fondé par des journalistes. D'ailleurs, c'est intéressant, enfin, pour la petite histoire, cette année-là, 1927, les jurés Goncourt tardaient à se mettre d'accord sur un lauréat. Donc, ça, les journalistes patientaient chez Drouhan, le restaurant où la remise du prix a lieu. Et comme ils patientaient, ils se sont dit, tiens, on n'a qu'à voter, nous aussi, pour un livre de la rentrée littéraire. Mais c'était une blague, mais sauf que ils ont voté et que la blague a marché, puisque cette année-là, le prix Renaudot s'est mieux vendu que le prix Goncourt. Et du coup, ainsi est né le prix Renaudot, qui existe encore de nos jours, évidemment, mais qui a cette particularité. Alors, ça a un petit peu changé, mais vous voyez que, quand même, même si c'est aussi un écrivain, le président aujourd'hui du prix Renaudot, c'est François-Olivier Gisbert, qui est quand même connu pour être un journaliste, avant tout, même s'il a écrit énormément de livres, sur la qualité desquels je ne m'engagerai pas, mais bon, voilà. Et donc, c'est un prix, voilà. Et le prix Interallié aussi est un prix qui s'est créé dans les années 30 parce que André Malraux n'avait pas été choisi pour son premier roman La Voix Royale par le prix Goncourt, que les journalistes ont considéré que c'était une faute de goût, et donc ils ont créé un prix, le prix Interallié, pour le donner à André Malraux. Et là, c'est un prix, là aussi, qui est, au départ est composé uniquement de journalistes, même si ces choses ont tendance à évoluer, et que aujourd'hui, vous parliez d'hommes de lettres, c'est vrai qu'on est souvent journaliste et écrivain, voilà, qu'on porte souvent les deux fonctions, les deux casquettes, et ça, c'est pas d'hier. En général, l'homme de lettres était souvent éditeur, journaliste, ou en tout cas critique littéraire et écrivain. C'était souvent pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que vous ne gagnez pas assez d'argent dans aucune de ces trois fonctions et qu'il fallait cumuler les trois pour arriver à peu près à un salaire décent.
Ouais, tout à fait. Vous dites que c'est Marc Fumaroli d'ailleurs qui le dit, que le phénomène des prix littéraires nés en 1671... Vous me parlez d'un prix d'éloquence lancé par Jean-Louis Guez de Balzac. Je vous parlais de Balzac tout à l'heure, là c'est un autre Balzac. Oui. Est-ce que les prix résultent de la notion de méritocratie, cette idée de prix? Vous dites, les prix littéraires s'inscrivent donc dans la même idée républicaine à la française que celle de l'école publique, à savoir le concept de méritocratie. Donc c'est... Il y a ça aussi, ça draine beaucoup de choses, cette notion de prix littéraire.
Oui, c'est évident, et ça, c'est ce que je voulais montrer dans mon livre, c'est que il y a un rapport, et plus qu'un rapport, une miniaturisation de la République française dans la République des lettres. Et donc, ce qui est frappant avec les prix, c'est qu'ils reproduisent un système démocratique avec tout l'appareillage, c'est-à-dire un corps électoral, donc le jury, un vote.
Et d'ailleurs, vous avez cette formule, lire ou élire.
Oui, c'est ça. Il s'agit donc de voter, et c'est très important, c'est que les prix littéraires sont fondés sur la notion de vote, avec d'ailleurs la double voix du président en cas d'égalité, qui est l'équivalent, j'écris, du 49-3, dont on parle tant en ce moment, c'est-à-dire qu'on arrête de débattre, la double voix du président, c'est lui qui tranche, et donc vous voyez bien comment, effectivement, ça recoupe notre situation démocratique. Et j'essaye de raconter comment les prix actuellement, à mon avis, dysfonctionnent de la même manière que dysfonctionne notre 5e République, puisqu'on est en train de fêter, on fêtait hier le 65e anniversaire de la Constitution. On voit bien comment, effectivement, ces prix littéraires dysfonctionnent comme dysfonctionne notre 5e République.
Voilà ce que vous écrivez. D'ailleurs, j'écris ces lignes alors que le gouvernement, sans majorité à la Chambre, fait passer ses lois en abusant du 49-3, et que le président de la société Goncourt, Didier Decoin, vient d'utiliser sa double voix au 4e tour de scrutin pour l'attribution du prix à Brigitte Giraud. Or, il se trouve que lui-même avait reçu son Goncourt en 1977 grâce à la double voix du président Hervé Bazin. Il y a comme ça des clins d'œil, l'actuel, ce qui est ancien revient, enfin il y a comme une sorte d'intemporalité, de l'ébullition des prix. Pour Bernard Clavel aussi, vous dites, Bernard Clavel raconte avoir été responsable d'un concours puisque c'est ma voix qui l'a fait passer, dit-il, sans préciser lequel. Voilà. Donc, mais l'élection de Bernard Pivot a changé quelque chose, puisque l'élection se passe plus à bulletin secret.
Oui, alors effectivement, il a changé un certain nombre de choses. D'abord, il a posé une limite d'âge qui est de 80 ans pour les jurés, ce qui est important, hein, ça évite que certains commencent à gâtifier.
ouais.
Donc, ça c'est une bonne chose. Après, ils deviennent, s'ils sont pas morts, ils deviennent membres honoraires du prix Goncourt, mais ils n'ont plus le droit de siéger. Donc ça c'est la première chose, c'est la limite d'âge. Il a effectivement annuler les votes à bulletin secret, donc on vote à main levée. Il a surtout interdit qu'on soit éditeur, qu'on cumule la fonction d'écrivain et d'éditeur, même si en réalité ça ne change pas grand chose. Mais quand même, lorsque vous êtes salarié d'une maison d'édition, c'est difficile de voter contre votre maison d'édition.
Bah c'est ça. Ouais,
parce qu'on peut vous reprocher, votre employeur peut vous dire, là, c'est faute grave. tu nous as empêché d'avoir le concours. Donc, c'est plus possible d'être salarié d'une maison d'édition, sachant quand même que, puisqu'on a affaire à un jury d'écrivains, et là, pour le coup... D'ailleurs, Bernard Pivot était le seul à ne pas être écrivain et élu au prix Goncourt. C'était, comme chacun le sait, un journaliste. Il se trouve qu'il a écrit quelques livres, enfin qui ne sont pas d'abord très bons pour le coup, et d'autre part qui ne sont pas des livres d'écrivains, qui sont des livres de journalistes malgré tout, un dictionnaire amoureux du vin, etc.,
ouais.
Des choses comme ça, qui ne relèvent pas purement de la littérature. Donc c'était une exception à la règle, on l'a choisi d'ailleurs à cette époque-là, parce que précisément il n'était pas lié à une maison d'édition, il avait une figure d'incorruptible dans la mesure où il était un peu au-dessus de la mêlée. C'était à l'époque, vous savez, on parlait du roi Lear tellement Apostrophe était une émission importante, même s'il a été élu après avoir arrêté la télévision. Donc il a fait voter comme ça un certain nombre de choses qui ont effectivement assaini les prix littéraires qui, dans les années 70 et 80, étaient réellement, complètement corrompus.
Oui, je me souviens des intellocrates, d'Amont et Rothman,
oui.
Où c'était un livre formidable, d'ailleurs j'ai lu ça quand j'étais jeune, mais c'est vrai que c'était assez corrompu, où il y avait le fameux trio Grasset, Gallimard, Le Seuil,
oui.
Mais bon, moi je suis un peu mitigée pour Pivot, puisque quand même, si c'est pas bulletin secret, ça veut dire que quelque part, on sait qui vote pour qui, je sais pas si c'est une bonne chose, moi je suis pour le bulletin secret quand même.
Oui, alors, je vais vous dire, parce que on l'a pas dit encore, mais moi je fais partie donc de deux prix,
oui.
Qui sont moins importants,
oui.
Qui sont le prix décembre et le prix de Flore. Le prix décembre est financé par... c'est important de dire qui finance les choses, et d'ailleurs il faudrait...
Oui, on va en parler.
Et y revenir à propos du prix Goncourt, d'une certaine manière. Le prix décembre est financé par la Fondation Yves Saint-Laurent. Il était au préalable, jusqu'à sa mort, financé par Pierre Berger, qui dirigeait l'entreprise Yves Saint-Laurent. Et puis le prix de Flore, qui est, comme son nom l'indique, le prix décerné par la brasserie Le Flore, qui est donc financé par Le Flore et un mécène, une marque de champagne. Donc le prix décembre remet 15 000 euros, c'est quand même une somme assez conséquente, qui a néanmoins été divisé par deux, parce qu'autrefois, c'était 30 000 euros décernés aux lauréats. Aujourd'hui, c'est 15 000 euros. Et le prix de Flore décerne 6 000 euros. Je dis ça parce que, encore une fois, ce que j'explique dans ce livre, c'est que il y a 10 grands prix à l'automne qui font vendre. Donc, Goncourt, Femina, Renaudot, Médicis, Interallié. On peut même dire 5, hein, et s'ajoute donc le prix décembre, le prix de Flore, le prix Vepler maintenant, qui font partie des prix de l'automne.
Une quinzaine de prix importants à peu près, plus de 2000, 5000 prix.
Oui, enfin, les 5 vraiment qui font vendre, c'est ce que j'ai dit. Le Flore, le décembre, le Vepler ne font pas vendre énormément. Et puis, puisque maintenant il y a des prix de printemps, il y en a deux qui font vendre, assurément. C'est le prix France Inter, le prix du livre Inter, comme on l'appelle, et le prix du magazine Elle, le prix Elle. Après, il y a le prix des libraires aussi, enfin voilà, quelques... Mais globalement, si vous voulez, on considère, moi je pense qu'il y a environ 5000 prix en France.
Oui.
Le chiffre sur lequel tout le monde tombe d'accord, c'est 2000, qui est à mon avis vraiment une hypothèse basse, et ces prix-là ne font pas vendre. Ils font absolument vendre zéro. Mmh. Soyons clairs. Hein, vous recevez le prix Landerneau, ben, je suis désolé, le prix Landerneau, ça ne fait pas vendre.
Hein. C'est juste un honneur, voilà.
C'est un honneur et c'est de l'argent.
Ce que j'explique
dans le livre, c'est que...
C'est une économie du livre.
C'est une économie parallèle du
parallèle
livre.
Parallèle du livre.
Voilà. C'est un mode de financement parallèle de la littérature. Alors évidemment, la tendance est quand même de voter pour des copains ou des copines.
Voilà.
ben oui, et donner de l'argent, ben tant qu'à faire, on va essayer de le donner à un copain ou une copine. C'est là où je dis que la République des Lettres rejoint la République, c'est-à-dire la République des copains et des coquins.
Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous parlais du vote secret quand même. Mais alors justement, cette notion de lire et délire, ça implique cette notion terrible du vote utile. On vote utile, on vote pour les grandes maisons quand même, Arnaud Vivian, ceux qui sont sélectionnés, il faut quand
non,
même...
Alors,
ça a peut-être évolué, mais enfin, quand même.
Alors, la question de voter pour une grande maison, elle est moins simple que de le dire ainsi. Mm-hmm. C'est que, globalement, ce qu'on ne vote pas tellement pour une grande maison, mais on vote pour l'assurance... que le livre soit bien distribué. Il faut bien se rendre compte que le but du prix Goncourt, c'est de vendre un livre à au moins 300 000 exemplaires et essayer d'atteindre le million. Ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du Goncourt, ce qui est arrivé à Hervé Le Tellier très récemment, puisque lui a vendu plus d'un million, bah, je crois qu'il en est à près de 2 millions d'exemplaires de son livre. Marguerite Duras avec l'amant avait elle-même atteint le million, mais globalement le chiffre moyen d'un Goncourt c'est autour de 500 000, ce qui est déjà évidemment énorme. Pour ce que j'en sais, Brigitte Giraud l'année dernière a vendu 250 000 à peu près, 220 000. Donc c'est pas un très bon Goncourt, il y en a eu des pires. Pascal Quignard, qui est pourtant un très bon écrivain, ça personne n'en doute, a vendu à 100 000. Et Mathias Chénard, qui est aussi un très bon écrivain, n'a pas fait beaucoup mieux lorsqu'il a eu le Goncourt. Donc, mais voilà, l'idée c'est donc d'un livre quand même qu'il soit massivement distribué. Donc, c'est pour ça que pendant très longtemps, les Goncourt ont hésité à le donner à ce qu'on appelle des petites maisons. C'est finalement arrivé avec Actes Sud, mais à un moment où Actes Sud n'était plus du tout une petite maison, contrairement à ce qu'on pouvait dire à l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient rassurés sur la capacité très rapide, hein, puisqu'il faut réagir dès le lendemain, à mettre sur le marché des centaines de milliers d'exemplaires.
Ouais, mais c'est vrai que quand même, bon, voilà, c'est... Est-ce qu'on peut parler d'une littérature à deux vitesses, c'est-à-dire d'un monde littéraire à deux vitesses ?
Non.
Il y a les petites maisons qui font quand même un travail de recherche important, et puis qui après deviennent sans doute des grandes maisons, d'ailleurs, ça n'exclut pas que ça évolue. Mais enfin, c'est vrai que même si on a l'impression actuellement que les jeux sont quand même plus ouverts, il y a quand même des auteurs de certaines petites maisons qui accèdent au prix.
Oui, ça arrive. Ça reste encore une fois relativement rare en ce qui concerne les grands prix. Je parle vraiment des grands prix. Hein.
Oui,
je parle du Goncourt, du Renaudot, du Fémina, du Médicis, dans une moindre mesure, parce que le Médicis peut le donner à, entre guillemets, un petit éditeur, par exemple à Verdier, à POL, à encore POL, si vous voulez, c'est une maison qui appartient à Gallimard, donc on ne peut pas parler d'un petit éditeur concernant POL, puisqu'il bénéficie des moyens de distribution de Gallimard. Encore une fois, c'est moins une prime. C'est pas l'idée de petite ou grande maison, c'est une idée de petit ou grand distributeur.
Ouais.
Ce sont les distributeurs qui font la loi. Gilles Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze disait ça dans les années 80-90. Il disait, de la même manière que la télévision n'est plus faite pour les téléspectateurs, mais pour les annonceurs, que les programmes sont faits pour les annonceurs plus que pour les téléspectateurs, de la même manière, les livres sont plus conçus pour les distributeurs que pour les lecteurs. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce que veut la distribution, puisque au-dessus des éditeurs, il y a des distributeurs. Ce que veulent les distributeurs, c'est un produit qui se vend en très grande quantité sur un laps de temps très court. C'est vraiment l'idée du best-seller. Et donc ça ne favorise pas le temps long, ça ne favorise pas la recherche. Encore une fois, c'est contraire aux règles du marché et de la grande distribution.
Donc il faut jouer avec les règles du jeu. Enfin, le prix littéraire vont sans doute évoluer encore, je pense. Vous écrivez, les prix littéraires sont-ils ces machines kafkaïennes qui semblent avoir été inventées pour déchirer sans cesse l'écrivain entre son désir symbolique de littérature et son désir mondain de reconnaissance littéraire? Il y a une sorte comme ça de deux visions de la littérature en même temps, c'est ce que révèle votre livre, Arnaud Vivian. Voilà, entre justement les écrivains qui sont aussi journalistes, vous parlez par exemple, j'ai adoré Jules Vallès. Jules Vallès, ça c'est dommage pour lui. Edmond de Goncourt songeait à lui attribuer un huitième couvert, mais l'auteur de L'Enfant renacle sur les cénacles. C'est très révélateur finalement, cette description. C'est par exemple, je parlais du côté romanesque aussi, oui, de ce voyage. Il y a la face A, comme vous dites, et il y a la face B.
Oui.
Et la face B, on dira, c'est le côté aussi romanesque avec votre amitié avec Claro. Puis la face A, c'est tout le rouage, le mécanisme, la mécanique,
ouais,
des prix littéraires.
Absolument, absolument. La face A, si vous voulez, c'est la théorie.
Voilà.
La théorie des prix. Effectivement, comment dire, la machinerie.
C'est une machinerie, voilà.
La machinerie éditoriale qui fonctionne de manière impeccable, qui est une machine extrêmement violente. Lorsque vous êtes écrivain et que vous sortez un livre à la rentrée littéraire, c'est d'une violence inouïe, parce que la bataille est sévère, elle est terrible. Vous êtes très vite éliminé si vous ne faites pas partie des 20 livres à peu près, hein, puisque on va dire qu'il y a 500 livres qui sortent au mois d'août, enfin fin août, et à l'arrivée en novembre, il en reste, allez, 20 maximum. Et donc tous les autres, c'est-à-dire donc 480, ont dégagé. Et parmi eux, évidemment, des livres de qualité. Mais voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que ces livres-là, les 20 qui ont été distingués, se retrouvent sous le sapin de Noël. C'est l'idée commerçante qu'on a eue pour valoriser l'idée de la littérature, sachant que durant toute cette période, et c'est ça le plus important, on parle de littérature. Là, vous parliez du prix Nobel aujourd'hui, mais c'était toute une séquence où la littérature, malgré tout, est dans l'actualité. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'il arrive un événement très important pour que le journal de 13h le 8 novembre, enfin le jour où est décerné le prix Goncourt, ne s'ouvre pas avec des caméras chez Drouan montrant la meute de journalistes et puis le président du prix Goncourt venant annoncer qui a remporté le prix. Cette séquence-là, on la connaît tous.
On la connaît tous.
Et elle ouvre tout le temps les journaux le jour dit à 13h. Et il faut, encore une fois, il faut un événement d'importance mondiale pour qu'elle n'existe pas ou qu'elle soit mise après autre chose. Donc c'est un moment où la littérature fait l'actualité et c'est ce qui légitime, hein, c'est ce que disent les partisans des prix, c'est que ça crée cette séquence où la littérature est dans l'actualité comme elle ne l'est jamais autrement.
Où il y a la vie, on vibre au rythme des prix.
Oui, alors il y a ce concept très important de vie littéraire qui est très, voilà, dont on dit qu'il est français, qu'il n'existe dans aucun autre pays au monde. C'est vrai que les prix littéraires, alors là, je ne parle pas simplement des grands prix d'automne, mais de tous ces prix littéraires qui sont remis, bah, à chaque fois, c'est l'occasion de boire un coup,
bah voilà.
De sociabiliser, de se faire son carnet d'adresses, de rencontrer des gens, et de faire la fête, voilà, de festoyer. Il y a toute cette idée-là qui fonde effectivement l'idée de ce qu'on appelle la vie littéraire.
On va faire une petite pause musicale et puis nous allons reprendre notre conversation à nos vivants autour de votre livre.
Eh bien, Verlaine aimait bien boire un coup, hein, paraît-il. Eh bien, il est chanté par Léo Ferré. Écoutez la chanson bien douce.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère. Un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Pourtant comme elle est encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de l'amour.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence d'Arnaud Vivian, qui nous dit tout sur Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire, ça vient de paraître aux éditions La Fabrique. Arnaud Vivian, bon c'est vrai, on a parlé de la fébrilité qu'engendrent les prix littéraires, de l'effervescence, mais vous dites aussi, on a l'impression, est-ce que les prix littéraires sont-ils pas les grands oubliés d'aujourd'hui, vous écrivez, ainsi se promène-t-on dans l'histoire des prix littéraires comme dans les allées d'un cimetière, plein de dates et de noms oubliés, ou qui nous parlent vaguement comme dans un quiz de jeu radiophonique. C'est vrai en plus, parce que le temps passe très vite, nous en parlions hors antenne. Il y a ce...
Non mais c'est aussi parce que il s'agit encore une fois avec ces prix de sélectionner soi-disant le meilleur roman de l'année.
Ouais.
C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il s'inscrit vraiment, c'est une manière d'inscrire la littérature dans le présent. Or ce présent, par définition, il n'est pas éternel, et donc beaucoup de ces noms, lorsque vous regardez ceux qui ont obtenu le prix Goncourt,
ouais,
donc depuis 1903, la plupart de ces noms sont complètement oubliés. Oubliés, c'est-à-dire plus personne ne les lit. Il y a quelques noms qui résistent, et là, c'est évidemment... Et parfois, on retient aussi plus les erreurs qu'ont commises les prix que leur réussite. C'est le cas, par exemple, donc, pour Céline, lorsqu'il n'a pas eu le prix Goncourt pour le voyage au bout de la nuit, mais qu'il a obtenu, à titre de compensation, le prix Renaudot. D'ailleurs, c'est ce qui a légitimé, à ce moment-là, le prix Renaudot comme chambre de compensation du prix Goncourt, lorsque celui-ci raté, et c'est arrivé d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du livre de Philippe Lançon qui n'a pas eu le Goncourt, mais qui a eu le prix Renaudot. Donc voilà, mais c'est vrai que énormément de ces noms sont oubliés, donc c'est pour ça que je parle d'un cimetière, et en même temps, on se rend compte que, donc depuis maintenant 120 ans, depuis la création du prix Goncourt, malgré tout, cette notion de prix, alors surtout avec le Nobel, évidemment, mais cette notion de prix charpente notre connaissance de la littérature. On sait que Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel de littérature. On sait que Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature. On sait qu'Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature. Donc voilà, ça reste quand même pour nous une dimension qui comment dire, marque quand même nos esprits et fonde une partie de l'histoire de la littérature.
C'est un arrière-pays de la littérature, en quelque sorte, les prix littéraires.
C'est une cartographie. C'est une certaine cartographie où il y a quand même peu de noms, parce qu'il y a beaucoup de bourgs. On va dire, si on compare ces noms d'écrivains oubliés à des petits bourgs de campagne, voilà, qui ne représentent plus rien à nos yeux. Et puis, en même temps, il y a quand même des grandes dates, des grands noms. Voilà, on sait que Julien Gracq a refusé le prix Goncourt. Ça fait partie de notre connaissance générale de la littérature.
Puis pour Sartre, justement, à un moment donné, vous parlez d'une lettre qu'il aura envoyée au prix Nobel et qu'ils n'ont jamais reçue. Ça, c'est rigolo, parce qu'il y a des ratés. Il y a des ratés complètement, comme le prix Goncourt qui est remis trop tard à certains écrivains, ou pour le plus mauvais livre. Je pense à Mandiargue, par exemple.
Oui, c'est
quand même assez... Voilà, c'est comme il y a des rendez-vous manqués qu'on essaye de rattraper en saluant un écrivain bien longtemps après.
Oui, absolument. D'ailleurs, en ce qui concerne le prix Goncourt de Marguerite Duras, qu'elle a obtenu quand même à 70 ans, c'est amusant de voir comment le prix Goncourt s'est précipité. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé la date de leur remise de prix, qui normalement a lieu en novembre. Ils l'ont précipité au mois de début octobre, je crois, dans mon souvenir, pour ne pas se faire shipper Marguerite Duras par le prix féminin. qui a une grande concurrence entre le prix Femina et le prix Goncourt, plus qu'entre le prix Renaudot et le prix Goncourt, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'encore une fois, si vous voulez, il y a un rôle là du prix Renaudot, comme c'est un peu le valet du prix Goncourt qui vient rattraper ses erreurs. Le prix Femina et le prix Goncourt, les deux sont nés à un an d'écart. Hein. Le prix Goncourt est né en 1903, le prix Femina en 1904, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le jury du prix Goncourt. Et cependant, ce n'est pas pour autant que le Femina est né comme un prix de femmes, donc devant décerner un prix à une femme. Mmh. C'est pour ça que je dis, dans une formule qui est totalement anachronique, que le prix Femina est un prix non binaire, au sens où la plupart des écrivains qui ont été récompensés du prix Femina dans les premières années de son existence sont des hommes. Élus par des femmes, certes, mais ce sont des hommes. Mais il y a une vraie concurrence entre les deux, qui est une concurrence. Il faut pas oublier aussi que ces prix sont devenus entre guillemets des marques. Et donc, ils se tirent la bourre, hein, pour parler vulgairement, comme deux marques concurrentes, à savoir qui va vendre le plus, qui a fait le meilleur choix.
Alors, par exemple, là, lorsque le Goncourt fut décerné à André-Pierre de Mandiargue pour son roman La Marge, le président Hervé Bazin, écrivez-vous, 9e couvert, déclara sans embâge à la presse agglutinée : nous venons de couronner un écrivain déjà célèbre pour son livre le plus faible. Donc il y a plein de petites anecdotes comme ça. Donc c'est un peu, à chaque fois, il y a une histoire qui cache une autre histoire. De même, ce que vous soulignez, Arnaud Vivian, c'est qu'un livre, on dirait qu'un livre en entraîne un autre, mais un prix en engendre toujours un autre. Il y a des prix qui naissent contre un autre prix. La guerre des prix, ça vous le montrez très bien. Des sortes de prix de résistance. Un autre prix, ça ne convient pas. Hop, on en crée un autre, et ce qui en crée un autre, etc.
Oui, effectivement, c'est comme ça que d'ailleurs les prix se multiplient, qu'il y en a autant. Il y a plein. Oui, alors, par exemple, le prix Médicis, qui est le dernier des grands prix, et le dernier en date, puisqu'il a été fondé bien longtemps après les autres, puisqu'il date, lui, de 1957. Le prix Médicis, eh bien, c'est précisément un prix qui se voulait un anti-Goncourt pour décerner un prix à des romanciers ou des romancières beaucoup plus aventureux que ceux choisis par le Goncourt, et notamment puisque il a été Rob Grillet s'est introduit dans le prix Médicis avec Nathalie Sarraute pour défendre l'école qui était la sienne, à savoir celle du nouveau roman qui venait de naître dans ces années-là. Et effectivement, ça a marché. Le prix Médicis a souvent couronné des écrivains des éditions de Minuit, donc de l'école du nouveau roman.
Et vous citez Sylvie Ducasse qui, vous dites, avait constaté quelques belles pages à ce qu'elle appelle l'utopie du prix Médicis, qu'elle résume ainsi: concilier marchandisation de la littérature et avant-garde littéraire. Donc on pourrait dire que c'est un prix paradoxal.
C'est un prix, stratégique,
ouais,
qui veut à la fois se démarquer et imposer de nouvelles voies en littérature que celles couronnées par le Femina, le Renaudot ou le Goncourt à cette époque. C'est aussi un prix stratégique, encore une fois phagocyté par Alain Aubrier surtout, pour couronner des écrivains des éditions de Minuit. Et Rob Grillet, qui pour moi, si vous voulez, qui tient une place importante dans mon livre,
c'est un
des personnages principaux de mon livre, parce que pour moi, il est une sorte de juré parfait. Il dit une chose: il faut avoir beaucoup d'humour pour faire partie d'un jury littéraire, et c'est vrai, je peux le confirmer. Il faut savoir perdre, il faut savoir ruser, il faut savoir jouer, il faut savoir bluffer. Il y a quelque chose qui relève du jeu et du poker dans un jury littéraire.
Ouais.
Vous êtes là avec d'autres et vous avez votre idée sur qui doit l'emporter, mais encore faut-il convaincre les autres, encore faut-il savoir qui va voter quoi, organiser des coalitions. Et donc il y a toute une part stratégique qui est très amusante. Mais encore une fois, il faut avoir de l'humour. Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Il ne faut pas prendre ça trop à la légère non plus. Et Rob Grillet a fait ça très bien. Et il ajoutait à propos du prix Médicis, parce que la peur quand même, c'est que un prix disparaisse. C'est que il naît, mais il peut mourir. Comme toute entreprise, il n'est pas voué à l'éternité. Donc il peut disparaître. Et Rob Grillet disait: si le prix Médicis à résister au temps, c'est parce que une année sur deux, on a couronné ce qu'il a, je reprends ces termes, un navet vendable.
C'est génial.
Voilà. Donc une fois, on vote pour un bon livre, et puis la fois d'après, on vote pour un navet, mais qui va se vendre et qui va permettre au prix de perdurer, parce que si le prix ne vend plus, son prix qu'à des livres difficiles, arides et donc peu commerciaux, eh bien, le prix va disparaître. Car encore une fois, l'important, c'est l'idée de qui mécène ce prix, car il faut de l'argent pour faire un prix.
Il faut de l'argent pour faire un prix. Vous citez aussi Jérôme Lindon, savait aussi que le prix littéraire est un simulacre qui fabrique de la valeur littéraire. On peut dire que certains prix littéraires ont fabriqué des fausses valeurs littéraires. Et d'ailleurs, Mathieu Lindon, cette fois-ci, c'est pas Jérôme Lindon, à propos...
Et son fils.
Voilà. Lorsqu'un nain vous fait de l'ombre, c'est que le projecteur a été mal réglé. Donc, c'est vrai, est-ce que les prix littéraires ressemblent beaucoup à ce projecteur? C'est un éclairage, finalement, un éclairage qu'il faut savoir doser, qu'il faut savoir considérer, avec ce que peut être un éclairage, c'est-à-dire éphémère aussi.
Oui, bien sûr. Encore une fois, donc, beaucoup d'écrivains qui ont reçu le Goncourt n'ont laissé aucune trace dans l'histoire de la littérature, bien qu'ayant reçu cette distinction prestigieuse. C'est un peu moins vrai pour le prix Nobel, quoique on pourrait sans doute trouver quelques exemples. Mais vous voyez, quand Winston Churchill a obtenu le grand prix, le Nobel de littérature, n'oublions pas, Nobel de littérature, je ne dis pas que Churchill soit un mauvais écrivain, mais enfin, tout le monde voit bien que ce n'est pas exactement un écrivain. Oui, le projecteur peut être mal réglé et la lumière tomber sur quelqu'un qui ne la mérite pas. Et parfois, c'est d'ailleurs extrêmement désagréable pour celui qui est élu, car c'est difficile après de continuer à écrire quand on a eu le concours.
Il y a eu Carrière là, Jean Carrière qui s'en est parmi de son.
Jean Carrière qui a fait une dépression terrible. Alors son histoire, il l'a racontée dans un livre qui s'appelle Le prix d'un concours précisément. Qui est un beau livre d'ailleurs, très franc, très honnête, après 8 ans de dépression. Donc il a eu le concours, Jean Carrière, c'est pareil, voilà, quelqu'un qu'on a quand même relativement oublié, mais qui a été extrêmement célèbre, c'est-à-dire que son prix Goncourt, lui, il fait partie, c'est le premier, je crois, dans l'histoire du prix Goncourt à avoir dépassé le million, avec L'épervier de Maheu.
Ouais, c'est un très bon livre.
Si vous vous souvenez de ce livre. Ouais. C'est un élève de Jean Giono, un écrivain rural. Et donc, il obtient le prix Goncourt avec L'épervier de Maheu. C'est toute une histoire, et vous voyez, là aussi, je parlais tout à l'heure du distributeur, c'est une histoire assez triste, parce qu'en fait, il était publié par un éditeur que j'adore, qui pour le coup était un petit éditeur, il s'appelle Jean-Jacques Pauvert.
Ah ben oui.
Voilà, Jean-Jacques Pauvert qui a
marqué
l'histoire de la littérature, notamment pour avoir été l'éditeur de Sade lorsque Sade était encore interdit, et qui a été plusieurs fois devant le tribunal pour ses éditions de Sade, jusqu'à ce que ça passe finalement, et que Sade soit autorisé de vente. Jean-Jacques Pauvert qui a fait énormément de choses, mais qui était un petit éditeur indépendant, qui publie L'épervier de Maheu, que d'ailleurs Pauvert n'aimait pas, enfin il n'aimait pas ce livre, c'est sa femme qui avait plutôt décidé de le publier, qui publie ce livre au mois d'avril, donc on n'est pas dans la séquence de la rentrée littéraire, on est au début des années 70, et Jean-Jacques Pauvert qui avait des dettes, a vendu les droits de L'épervier de Maheu à Hachette, qui là pour le coup est la grande distribution. Et donc c'est aussi pour ça que L'épervier de Maheu, qui se vendait déjà bien depuis le mois d'avril, lorsqu'il a reçu le Goncourt, a explosé au niveau des ventes, mais aussi parce qu'on a obligé Jean Carrière à faire une longue tournée promotionnelle dans les librairies, et donc il était épuisé. Et un jour, c'est ce qu'il raconte dans ce livre, Le prix d'un Goncourt, déjà sa vie était en train d'exploser, divorce, etc. Mais un jour, il est à Nancy, en train de faire une signature dans une librairie, dans cette longue suite de signatures, et il dit à la personne qui l'accompagnait, je n'en peux plus. Il y avait d'autres signatures de prévues le lendemain dans d'autres villes, les jours suivants, et il dit « Je n'en peux plus, raconte n'importe quoi, il faut que j'arrête, je suis à bout, je vais tomber en dépression. » Et donc le type lui dit « Mais qu'est-ce que j'invente ?»« T'as qu'à dire que mon père est mort. » Et il va déjeuner, et là, téléphone, et c'est sa femme qui lui dit « Ton père est mort. »
Ouais, donc c'est terrible.
Et donc là, oui, ça a été terrible. Et il a mis 8 ans avant de pouvoir réécrire.
Ça rejoint un peu la fin de votre livre, Arnaud Vivian.
Absolument.
Ça rejoint la fin de votre livre que nous
avons révélé.
Qui est terrible finalement quand les prix rejoignent.
Mais qu'on ne racontera pas.
On ne racontera pas parce qu'il y a un petit suspense. On va faire une pause musicale et on revient à Station Goncourt dans quelques minutes.
Alors le deuxième choix de l'invité, c'est Van Allen qui court avec le diable.
Bon, il y a l'air d'y avoir un problème avec le disque de Van Allen. Je suis désolée, mais on va passer à Kate Bush. Désolé.
Alors, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec Arnaud Vivian qui vient de nous, qui vous dit tout sur Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire. Ça vient de paraître à La Fabrique, édition La Fabrique. Arnaud Vivian, c'est vrai que votre livre est peuplé de personnages, par exemple, Georges Charansol, quelqu'un, voilà, pour moi c'est un peu lointain tout ça, mais ça fait plaisir en même temps d'entendre ces noms. Jacqueline Piatier, qui était une journaliste du Monde et qui explose, vous dites-il, voilà ce que vous dites, je disais de Jacqueline Piatier, parce que ça a été la première à dénoncer les prix littéraires, enfin, la magouille des prix littéraires. Hein. Jacqueline Piatier explose littéralement dans les colonnes du Monde, dites-vous, dont elle a inventé 2 ans auparavant le supplément littéraire. Supprimer les prix, lance-t-elle, dans ce qui ressemble à un cri d'effroi ou à une menace révolutionnaire. L'argent qu'ils véhiculent corrompt nos mœurs s'il ne s'agit plus assez de littérature et trop de commerce. Après, je pense qu'elle dit, quand démissionneront-ils tous ces jurés pour que s'achève cette comédie des prix littéraires, l'institution sombre dans le ridicule, il est temps qu'elle en meure. Elle n'y allait pas par quatre chemins, Jacqueline Piatier.
Elle n'y allait pas par quatre chemins, mais ce qui est quand même amusant de remarquer, de signaler, c'est que 7 ans plus tard, elle rejoindra le jury du prix Médicis.
Oui.
Donc, elle a changé d'avis, visiblement, après cela. Il y a eu toute une époque, en fait, tout au long du XXe siècle, des journalistes, principalement des journalistes et des critiques littéraires, ont demandé la suppression des prix littéraires.
Ouais.
C'était une espèce, ce que je raconte, c'est une espèce de marronnier, comme on dit dans la presse.
Ouais, ça revient.
Ça revient régulièrement. C'est l'article qu'on écrit quand on ne sait plus quoi écrire. Supprimer les prix littéraires. Il est vrai qu'à l'époque donc, où elle écrit cela, c'est l'époque... vous avez parlé tout à l'heure de Bernard Clavel.
Oui.
C'est l'époque où Bernard Clavel vient de claquer la porte. Nadeau, qui est aussi un personnage important, vient à ce moment-là, lorsqu'elle écrit cela, c'est que Nadeau et deux autres jurés ont claqué la porte du Renaudot, considérant que le prix avait été remis à quelqu'un, à un journaliste du Figaro en l'occurrence, et que c'était gagné d'avance. On leur avait présenté la chose comme faite, il n'y avait même pas eu de discussion ou quoi que ce soit, ce qui les avait horripilés, et donc ils avaient claqué la porte. Il faut rappeler quand même que lorsqu'on est juré, a priori, je dis bien a priori, on ne gagne rien. On n'est pas payé pour être juré. C'est pas comme dans une cour d'assises où les jurés,
ouais,
malgré tout, reçoivent une somme d'argent, ce qui est normal puisque ils arrêtent de travailler durant cette période. Là, pas du tout. Donc, vous devez lire des livres, participer à des repas. C'est quand même pas tout à fait désagréable. Évidemment, vous. À l'époque, au prix Goncourt, au début du prix Goncourt, les jurés devaient payer leur repas. Je crois d'ailleurs que c'est toujours le cas au Renaudot. Il faudrait vérifier. Il me semble que c'est aussi encore le cas au Renaudot. Mais bref, donc vous devez lire des livres et vous n'avez aucune compensation financière. En réalité, vous avez une véritable compensation symbolique. Les membres de l'Académie Goncourt, eh bien, comme pour les membres de l'Académie française, lorsqu'ils écrivent un livre, la mention de l'Académie Goncourt de l'Académie française apparaît sur la couverture. On peut supposer que lorsque vous êtes de l'Académie française, enfin d'ailleurs quand je dis on peut supposer, je suis quasiment sûr de mon coup, même si j'ai pas d'enquête précise sur le terrain à ce sujet-là, mais que lorsque vous êtes de l'Académie française ou de l'Académie Goncourt, vos avaloirs, c'est-à-dire l'argent que vous recevez en avance pour l'écriture de livres, sont beaucoup plus importants que lorsque vous êtes un écrivain entre guillemets lambda. Donc, il y a des compensations invisibles, symboliques, mais aussi invisibles et financières, malgré tout.
D'ailleurs, vous êtes vous-même membre de... D'ailleurs, vous parlez, alors il y a aussi votre histoire qui s'entremêle dans l'histoire des prix. Vous dites, je n'ai reçu aucune gratification de quelque nature que ce soit. En revanche, j'ai pu calculer que durant le même laps de temps, j'aurais distribué avec ces jurys plus de 900 000 euros, novembre et décembre. 30 000 fois 25 est à 750 000 euros, plus le flore, bon, 165 000 euros. Pour ma part, cela m'a valu quelques joies et beaucoup d'emmerdements, sans compter une brouille avec un ami cher, Claro, qui est un ami que vous retrouvez, que vous perdez, que vous retrouvez.
Non, parce que on se connaît depuis, donc, on a fait notre cagne au lycée La Canale,
ensemble.
À Sceaux, ensemble, donc on se connaît depuis l'âge de 20 ans. On a été très proches, et surtout qu'en plus on a habité dans le même immeuble à une période. Nous étions très proches. Et ce qui nous a finalement embrouillés, et on ne se fâche qu'avec des amis, ce qui nous a embrouillés, c'est précisément le fait que j'appartienne à deux prix littéraires, que je fasse partie de deux jurys littéraires, donc je l'ai dit, le décembre et le flore, et Claro a cette particularité en tant qu'il est traducteur mais aussi écrivain, c'est qu'il s'est toujours farouchement opposé à cette notion de prix littéraire, considérant que ça relevait de la foire aux bestiaux, à peu près.
Ouais.
Et que ça n'avait rien à voir. Ce qui est toujours, d'ailleurs, l'argument avancé contre les prix littéraires, c'est que ça relève de la compétition, qu'il n'y a pas de compétition à avoir entre écrivains. Et en même temps, vous voyez bien que ce système de distinction fonctionne, puisqu'on est là à guetter qui a eu le prix Nobel de littérature aujourd'hui, etc. C'est un Norvégien, au passage, je viens
de... Oui, oui. Voilà. Voilà, ça. C'est un Norvégien. Donc, vous connaissez cet auteur? Non, pas du tout.
Donc ça fonctionne, ce système de distinction fonctionne. Encore une fois, il a ses défauts et quelques qualités malgré tout.
Quelques qualités. Alors, la qualité, c'est qu'il y a pas mal de personnages. Maurice Nadeau, dont on a parlé tout à l'heure, il est d'abord, explique Nadeau, dans leur recrutement des amis coptes d'autres amis qui, à leur tour, appellent à siéger à côté de leurs amis communs. On reste entre soi et entre soi pour la vie avec des pouvoirs exorbitants, du moins dans le cas des grands prix de fin d'année. Donc, Nadeau est un personnage. Et puis, il y a le personnage du mécène. Vous avez évoqué ça. C'est très important parce que vous racontez l'histoire du prix novembre.
Oui.
Et ça, c'est important, parce que c'est les rouages un peu du pouvoir. Et c'est ça, en fait, le problème des prix littéraires. C'est la notion d'argent et de pouvoir. Vous écrivez, pour financier du prix novembre, Michel Denry, en adressant une lettre de licenciement à tous les jurés félons ayant voté Welbeck, s'en suivra ensuite un petit procès où les virés, défendus par maître Georges Kiegeman, obtinrent le droit de réformer un nouveau cénacle à condition qu'il ne s'appelle pas Novembre, dont le nom avait été déposé. Non sans humour, ils déclarèrent donc l'appeler Décembre. Vous êtes toujours juré.
Oui, c'est toujours. Donc, je l'étais à cette période-là, dite du novembre,
voilà.
Donc, la première mouture, si on veut, de ce prix. Cette histoire est très révélatrice. Donc,
je trouve, oui.
Ce monsieur Denry, qui dirigeait une grande papeterie de luxe, et qui faisait les choses luxueusement, parce que nous déjeunions dans un grand restaurant. Il invitait parfois des jurés de l'étranger, Mario Vargas Llosa, Julian Barnes, ont siégé. D'ailleurs, l'année où nous avons couronné Welbeck, ce qui l'a tant fâché, Mario Vargas Llosa et Julian Barnes votaient pour Michel Welbeck. C'est à l'époque qu'il était très peu connu. Mmh. C'est l'époque des particules élémentaires, donc juste après Extension du domaine de la lutte, son premier roman. Donc il reçoit cette somme qui, à l'époque, c'était des francs, mais c'était 250 000 francs. Vous voyez, c'était quand même une somme importante. Je me souviens de Julian Barnes, d'ailleurs, défendant Michel Welbeck en disant qu'il ne connaissait pas, hein, encore une fois, à cette époque, personne ne parlait de Michel Welbeck. Personne ne savait quel écrivain il était, au tout début, et donc encore moins Julian Barnes. Julian Barnes avait dit: j'aime les livres qui chassent le grand gibier. Je trouve cette formule extrêmement belle et élégante. Donc ils avaient tous les deux voté. Donc la majorité l'emporte, Welbeck l'emporte. Et là, à notre grande surprise, nous recevons donc, oui, une lettre de licenciement. On ne peut pas dire autre chose, sauf que nous n'étions pas salariés. Donc, enfin, nous sommes virés. Le mécène décide que il était tellement furieux d'avoir dû donner de l'argent à Michel Welbeck, qui décide de nous virer et donc de fonder un nouveau cénacle. Et c'est là où nous avons pris un avocat collectivement, hein, donc on a eu le droit de continuer à condition de nous appeler Décembre, le prix Décembre. Et donc nous avons dû trouver un nouveau mécène qui est donc Pierre Berger, dont je parlais tout à l'heure.
Et qui lui a eu d'ailleurs, lui, c'est, alors vous dites, avec plus de subtilité que son prédécesseur, obtenant dans la plus grande discrétion la tête de trois jurés qui avaient préféré voter pour Claude Askolovitch en 1999, puis pour Anthony Palou en 2000, plutôt que pour Christine Angot. Donc là, à nouveau, mais enfin lui, il le fait plus discrètement, on peut dire, le premier.
Oui.
Mais c'est c'est drôle ce rapport entre le mécène et le prix qu'il soutient ou qu'il crée. Je trouve que c'est important de le souligner. Voilà.
Ah, évidemment. Alors, c'est pas une relation employeur-employé,
non.
Mais enfin, c'est quand même. C'est un peu. Comment dire. Lorsque vous êtes invité quelque part, hein, bon, le maître de maison, malgré tout, c'est le maître de maison. Vous ne pliez peut-être pas à ses ordres, mais vous faites attention à ne pas le vexer, etc. Il vous invite, vous vous comportez non pas de manière docile, mais enfin, vous faites attention à ce qu'il soit content de vous recevoir et que tout se passe bien. Il en va un peu de même avec les prix littéraires. À partir du moment où quelqu'un paye toute l'organisation, c'est-à-dire les repas, les buffets, les voyages s'il y en a, et décerne le chèque, encore une fois, Évidemment, donner un chèque à quelqu'un que vous ne supportez pas ou dont vous n'aimez pas le travail n'est pas spécialement agréable. Et pourtant, il s'agit bien de la démocratie. Donc, de temps en temps, le supposé démocrate, mécène, se change en dictateur.
Ouais.
Il tape du poing sur la table en disant cette année, et comme il y a toujours quand même des gens qui sont indépendants et libres, fort heureusement, dans les jurys, eh bien le seul moyen c'est de les éliminer discrètement, donc de leur dire c'est mieux que vous partiez là avant que ça se termine mal. Donc tout ça quand même n'est pas, je dis une phrase que j'utilise, il n'y a pas mort d'homme.
Non.
Je dis, et en même temps, je dis, ça serait à regarder de près, et c'est là, on en arrive aux dernières pages de mon livre. Mais, parce que des fois, il y a mort d'homme ou de femme. Mais, globalement, ce ne sont pas des histoires très importantes, donc, on se plie plus ou moins gentiment à la volonté de l'autre, ou alors on démissionne. Et c'est quand même très souvent le cas, des jurés démissionnent pour X raisons. Vous parliez de Nadeau, il a démissionné du Renaudot. On pourrait parler de...
Il n'y a pas eu Régine Desforges aussi, donc, qui a démissionné, me semble-t-il.
Non, il y a eu... C'est pas Régine Desforges qui a démissionné.
Chapsal,
du Fémina. Madeleine Chapsal a peut-être démissionné du Fémina.
Il y a eu une
Fémina.
Histoire au Fémina, en tout cas.
Il y a eu... son nom m'échappe. Dominique Rollin qui a démissionné du Fémina. On pourrait parler aussi de Claude Simon qui était au Prix Médicis. Alors ça, c'est une affaire plus grave. Il s'agit de... On est en 1970. Pierre Guillotat vient de publier un livre très fort qui s'appelle Eden Eden. Qui est un livre qui a été préfacé par Roland Barthes, Philippe Solers et Michel Léris, publié aux éditions Gallimard, ces trois préfaces, parce que on savait que le contenu du livre allait énormément déranger, ça n'a pas manqué, puisque le ministère de l'Intérieur, qui était à l'époque représenté par Marcellin, a fait censurer le livre, contre l'avis d'ailleurs du président de la République, qui était à l'époque Pompidou. L'affaire s'envenime. Il y a une pétition internationale qui est signée vraiment par de très grands noms, Pasolini, Jean-Paul Sartre, évidemment, Simone de Beauvoir, Pierre Boulez, enfin, vraiment, toutes les grandes personnalités du monde de la culture et largement au-delà de la littérature signent cette pétition en faveur de Guillotat. Rien n'y fait. Marcellin, le ministre de l'Intérieur, campe sur ses positions, encore une fois, contre l'avis du président de la République. C'est à une époque où un ministre pouvait dire non au président. Mmh. On voit bien que les temps ont bien changé, que tout le monde obéit comme un seul homme aujourd'hui à la voie présidentielle.
Ouais, ouais.
Ce n'est pas le cas à l'époque. Et c'est normal, hein, parce que la Constitution le permet. Donc, à partir de là, le prix était sélectionné sur le prix Médicis. Et évidemment, il aurait eu le prix Médicis, ça aurait été d'une force extraordinaire, vu le contexte. Et malheureusement, à une voix près, il n'a pas eu le prix Médicis, qui a été donné à un livre complètement oublié aujourd'hui. Et là, Claude Simon, futur prix Nobel de littérature, qui était dans le jury du Médicis, a démissionné, a claqué la porte en disant que c'était tout à fait inacceptable de ne pas avoir couronné Guillotat dans les circonstances qui étaient celles-là, celles de la censure.
Alors bon, vous racontez aussi votre histoire, Arnaud Vivian, c'est ce que je disais tout à l'heure. À ma grande surprise, le plus honnêtement du monde, c'est-à-dire sans n'avoir jamais rien compris au comment du pourquoi, d'autant que je n'avais encore publié aucun livre, juste des articles à gauche ou encore plus à gauche, en 1996, j'intégrais par cooptation ce jury où je ne connaissais personne, sinon de loin, un journaliste du Monde. Et vous racontez d'ailleurs, vous n'êtes pas trop à l'aise au départ, vous ne savez pas comment vous habiller. Mais ça, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. Mais c'est vrai que quand on doit faire partie d'un jury, puis il y a Florence Malraux, vous faites un petit clin d'œil à Florence Malraux, qui vous faites un clin d'œil à son... Elle était décontractée, quoi. Elle avait une sorte de chic décontracté. Oui. Elle a été très sympa avec vous.
Elle était très sympa avec moi. Elle m'a rassuré. Sinon, moi, j'avoue que je me sentais tellement mal à l'aise dans cette ambiance, comment dire, très compassée, hein,
oui, c'est ça.
Qui me ressemblait pas du tout. Donc moi, j'avais pas de vêtements.
C'est un problème. Oui.
J'avais pas d'argent pour m'acheter des vêtements non plus. Ouais. Et donc je savais pas comment faire. J'étais horriblement gêné. Et quand je l'ai vue, elle, Florence Malraux, arriver avec beaucoup d'élégance, cela dit, en jean basket, ça m'a un petit peu rassuré. Et puis bon, j'étais en bout de table comme les enfant à peu près, vous voyez, parce que j'étais le petit dernier, et puis beaucoup plus jeune que les autres. Hein.
J'étais très jeune.
J'étais extrêmement jeune, et donc j'étais en bout de table, et donc heureusement, elle a eu la gentillesse de me parler pendant le déjeuner. D'ailleurs, a été élu un livre que je détestais, qui était le livre de Régis Debray, qui s'appelle « Loué soit le Seigneur », où il raconte sa vie politique, l'époque notamment où il était conseiller de François Mitterrand, et son rapport, on va dire, à la politique, livre à mon avis très hypocrite, comme souvent les livres de Régis Debray. Mmh. Donc j'étais fou furieux parce que je ne voulais pas que ce livre ait le prix décembre, sans compter que je pensais que Régis Debray n'avait pas du tout besoin de cet argent. Enfin bref, j'étais furieux. Enfin, mais sans Florence Malraux, j'y serais peut-être pas retourné. Je ne sais vraiment, sincèrement pas pourquoi j'ai été choisi, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, à travers les mots de Maurice Nadeau, ça se fait par cooptation. On rentre dans un jury par cooptation, et par conséquent, il a bien fallu que des gens votent pour moi. Encore une fois,
on est choisi.
Oui, on est choisi, on est élu. Ah oui, c'est vraiment le système démocratique. Encore là, démocratie fermée. Hein. Mmh. Ça ressemble plutôt, si vous voulez, mais c'est aussi une vision de la démocratie. Un jury littéraire, c'est aussi comparable à un conseil d'administration, si vous voulez. Ouais. Qui fonctionne aussi par cooptation en général. Donc voilà, ça a été ma première expérience. Et puis j'y suis resté. Et puis je dois avouer, j'y ai pris goût. Alors j'ai découvert que j'aimais pas perdre. J'aime gagner. Heureusement, j'ai gagné plusieurs fois. Et comment dire, quand je dis gagner, faut bien comprendre, c'est-à-dire que moi personnellement, je ne gagne rien, mais je gagne de l'idée de favoriser un écrivain que j'aime.
D'aller au bout de votre...
Oui, de défendre une idée, mon idée de la littérature.
Et d'être aussi acteur, quand même, du milieu littéraire.
Nous sommes fâchés avec Claro, parce que, justement, une des dernières fois qu'on s'est vu avant qu'on se fâche, c'est qu'il est venu me voir en me disant... Il faisait partie du collectif Inculte, qui était un collectif d'écrivains, où il y avait Mélisse de Carangal, notamment François Bégaudeau, à cette époque-là, et il y avait Mathias Sénard. Et Claro me dit, écoute, ça serait génial si Mathias Sénard avait, c'était son premier roman, je crois, qui s'appelait Zone, avait le prix décembre, et donc je l'ai lu, et j'étais convaincu que Mathias Sénard est un grand écrivain, je le pense toujours. Et donc j'ai tout fait pour que Mathias Hénard obtienne le prix décembre, et il l'a obtenu. Donc je l'ai introduit dans la liste, hein, dans la première liste, et puis j'ai fait campagne pour Mathias Hénard, et il a obtenu le prix. Je l'ai fait aussi quelques années plus tard pour Chloé Delhomme, qui publiait son deuxième livre. Maintenant tout le monde sait qui est Chloé Delhomme. Mais voilà, ce sont des gens, et vous les aidez. Elle m'a dit, les 30 000 euros qu'elle a reçus à l'époque, ça lui a sauvé la vie. C'est une somme importante pour elle, ça représentait presque un an de salaire. Donc, vous voyez, vous défendez des écrivains dont vous présentez en tant que critique, je présentais le potentiel, je ne me suis pas trompé. Donc, Mathias Sénard a eu le prix décembre.
Ah oui.
Quelques années plus tard, il a eu le prix Goncourt. Chloé Delhomme a eu le prix décembre. Quelques années plus tard, enfin l'année dernière en l'occurrence, elle a eu le prix Médicis, il y a deux ans.
Puis là, elle est encore dans les prix, d'ailleurs.
Et elle est encore dans les prix. Donc, si vous voulez, vous défendez une idée de la littérature, c'est votre travail. Moi, je suis critique littéraire, mais finalement, évidemment, c'est un être faire partie de jurys littéraires, ce n'est qu'une continuité de mon travail de critique. C'est juste ça. Hein,
Oui, c'est une continuité. Ça vous permet d'aller au bout d'une lecture, finalement, d'un enthousiasme de lecteur. Oui.
Et je suis je suis des fois je perds, hein, des fois on donne le prix. Je suis catastrophé parce que j'aurais pas du tout voulu que ça se passe ainsi. Donc il m'arrive de perdre. C'est normal. C'est encore une fois, c'est fait partie du jeu. Mais quand je gagne, pour moi, c'est un pur bonheur. Quand j'ai réussi à donner le prix de Flore à beaucoup d'écrivains que j'aimais là, parce que au prix de Flore. Bon, pendant des années, vous voyez, par exemple, je parlais de Pierre Guyotat,
ouais.
Qui n'a donc pas eu le prix Médicis en 1970. Il a sorti un livre dans les années 2000. Et j'avoue, puisque on parlait du mécène, du rôle du mécène, je suis allé voir Pierre Berger et je lui ai dit, il faut donner le prix à Pierre Guyotat. Et il m'a dit, je pense que tu as raison. Et donc nous avons donné le prix à Pierre Guyotat. Il y a eu un vote, hein,
tout le monde. Oui, bien sûr.
Mais majoritairement, le jury a voté pour Pierre Guyotat. Et je raconte dans mon livre que Pierre Guyotat, qui est un immense écrivain, sans doute un des plus grands écrivains français de la deuxième moitié du XXe siècle, était pauvre comme Job.
J'ai vu, il était dans une caravane, non ?
Oui, il vivait dans un camping-car.
Voilà.
Et je lui ai demandé ce qu'il allait faire des 30 000 euros, parce que c'était 30 000 euros à cette époque. Et il m'a dit, je vais m'acheter d'abord un lit. Voilà, il n'avait même pas de lit. L'un des plus grands écrivains français. Donc on ne se rend pas compte non plus de la situation économique des écrivains, la plupart du temps, y compris des grands écrivains. Et donc, ça sert aussi à ça. Je parlais de chèques, je parlais d'argent. Il faut pas. Il n'y a pas que les honneurs, en fait, hein, dans ce système des prix. C'est aussi, quand même, une idée de financement, encore une fois, parallèle de la littérature, parallèle aux droits d'auteur.
Oui, il y a même des grandes maisons qui ne donnent pas d'avaloir, mais on sait qu'il y aura un prix, quand même. Il y a une sorte de non-dit là-dedans. C'est un peu tacite, mais enfin, il y a tout un code.
Absolument. Il y a une maison d'édition. Ça, c'est ce que raconte. Pierre Assouline, qui aujourd'hui fait partie du prix Goncourt, qui est juré du prix Goncourt, qui espère d'ailleurs devenir rapidement président du prix Goncourt, mais enfin bon, c'est pas fait.
Ouais.
Pierre Assouline raconte ça dans un article qu'il a écrit, où il dit que de sources sûres, et je veux bien le croire, c'est pas le genre à inventer des sources, Pierre Assouline, une maison d'édition disait à certains de ses écrivains, on te donne pas un gros avaloir, mais ne t'inquiète pas, on te fera avoir un prix de l'Académie française. Car il y a à l'Académie française un nombre important de prix.
Bien doté.
Plusieurs dizaines de prix, plutôt bien dotés pour
bien
certains.
Doté, ouais.
Ça peut aller jusqu'à 50 000 euros pour le prix Paul Morand.
Donc c'est déjà, c'est plus que pas mal, hein.
c'est
bien.
Beaucoup.
Alors il y a des personnages.
L'aide d'impôt.
L'aide d'impôt, c'est ça qu'il faut préciser. Alors il y a des personnages, bon, il y a des scènes, c'est comme des scènes de film, la scène entre Poland et Benoît de Groult, qui est une mécène elle aussi, mais qui se trouve un peu. Elle est un peu larguée par la scène qui se passe sous ses yeux, qu'elle finance, et finalement, il y a des scènes de film, hein, vraiment. Bon, Claro, on en a parlé, et puis c'est là un peu. Alors vous parlez aussi de Bernard Franck, d'ailleurs.
Oui.
Bernard Franck avait l'habitude de dire.
Que j'ai connu. Ouais. Que j'ai connu au prix décembre. Il faisait partie, au prix novembre, puis au prix décembre d'ailleurs. Il fait partie des trois qui ont été écartés par Pierre Berger, alors qu'ils étaient très amis dans la vie par ailleurs. Bernard Franck, oui, qui était donc un écrivain et un grand critique littéraire, et que j'ai donc fréquenté au prix novembre et décembre.
Et voilà ce qu'il dit. Si dans un cocktail littéraire, vous entendez deux personnes parler de littérature, ce sont des éditeurs. En revanche, si vous entendez deux personnes parler d'argent, ce sont des écrivains. Les éditeurs ne parlent jamais d'argent et les écrivains ne parlent jamais de littérature. Ça, il y a le sens de la formule et des uns et des autres. Et puis aussi, il y a cette notion, vivre de sa plume ou se faire plumer, vivre de sa plume ou se faire plumer. J'ai longtemps rêvassé sur ces lignes qu'on lit parfois en quatrième de couverture des romans français ou étrangers. X était publicitaire. plus rarement ouvrier, il se consacre désormais à l'écriture. C'est vrai que tout d'un coup, on dirait qu'il y a une conversion sur les quatrièmes de couverture. C'est une petite remarque que vous faites avec de l'humour, Arnaud Vivian. Et puis aussi, il y a le côté dramatique. Hein. Vous racontez l'histoire un peu dramatique en fin de votre ouvrage. Je crois d'une dame qui n'a... Enfin, il y a une histoire avec un prix littéraire et puis ouais. Le fils vient vous trouver, ça se termine mal. Je ne sais pas si on va raconter l'histoire, on laisse
les... Non, c'est bien hein? de laisser le suspense là-dessus. C'est une histoire... Je pense que ce qu'il voulait... Depuis que je fais ce métier de critique littéraire, je m'aperçois que les gens se rendent difficilement compte de la douleur qu'il y a à écrire, que c'est pas du tout une activité neutre,
bien sûr.
Que ça engage beaucoup la personne par rapport à sa vie privée, par rapport à sa famille, que c'est un effort très difficile de bien écrire. Et je raconte l'histoire d'une femme qui, assez tardivement dans sa vie, s'est mise à écrire. Elle était prof et elle a eu un prix qui existe encore et qui n'a pas grande importance, qui est le prix du premier roman. Mmh. On peut pas dire que on en parle énormément. C'était un prix d'ailleurs, à mon avis, à l'époque, hein, à l'époque où elle l'a reçu. Ça m'avait marqué pour deux raisons. C'est que cette même année-là, l'année où elle a reçu le prix du premier roman, je sortais moi-même mon premier roman.
Voilà.
Donc ça m'avait marqué parce que j'ai fait attention. Je me suis dit, non, mais c'est pas moi qui l'ai eu.
Vous êtes donc, de la même.
Donc, mais je n'ai pas lu pour autant son livre.
Ouais.
Je crois que ce livre était, ce prix était vraiment assez perverti, et qu'un éditeur pouvait assez facilement circonvenir les jurés. Donc elle a eu ce prix. Et je pense que d'avoir eu ce prix, elle avait une quarantaine d'années à l'époque, elle était prof, elle s'est dit qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, et donc elle a rapidement sorti un second roman, et elle a été accusée de plagiat.
Ouais, ça c'est le pire des choses.
Et oui, et ça s'est très mal fini, mais ça vous le découvrirez
voilà.
En lisant ce livre. Et il se trouve effectivement que je connaissais son fils qui faisait une petite revue de gauchistes qui venait m'apporter. À l'époque, je travaillais aux Inrecuptibles et j'avais sympathisé avec lui et qu'il m'a raconté cette histoire sinistre qui en plus se redouble d'un autre drame qu'on découvrira dans
ouais. Voilà. C'est un peu l'envers des illusions perdues. Enfin, il y a ce côté-là. Oui. Et il y a le côté... voilà, je vous disais tout à l'heure, face A, face B. C'est pas que manichéen. Il n'y a pas les prix sont ceci, cela. Il y a toute une histoire derrière, il y a plein de romans finalement, de romans de oui. Vie qui se créent autour de tout ça.
Oui, bon, c'est à la fois, vous l'avez dit, mon livre est court, j'en avais écrit un autre précédemment qui s'appelait Quantique de la critique sur la critique littéraire.
Oui, oui.
Aux éditions La Fabrique qui était court aussi. Moi je fais, c'est comme les expressos, je fais court et serré.
Oui, c'est ça, c'est un café court et serré.
C'est comme ça que j'aime que soient les livres, hein, de manière générale. Et donc, je les écris aussi comme ça. Il n'empêche, et puis, effectivement, en croisant énormément de fils, il y a une partie très légèrement... Il y a des fragments autobiographiques. Il y a toute une réflexion théorique. Il y a ce rapprochement avec La République et La République des Lettres, hein, la comparaison entre les deux. Une histoire finalement, parce que à un moment je me suis dit comment elle fonctionne cette République des Lettres, comment fonctionne la République,
hein,
tout simplement, et je me suis dit que le ressort le plus important c'était l'amitié. Voilà, ce sentiment qui est l'amitié, mal étudié finalement. On a beaucoup étudié l'amour, mais on n'a peut-être pas assez bien étudié ce qu'est l'amitié. Dans tout... C'est pour ça que cette histoire avec Claro est importante, parce que j'essaye d'expliquer que le fonctionnement véritable des institutions, c'est peut-être ça, c'est l'amitié qui peut avoir des mauvais côtés, hein, c'est-à-dire le copinage, évidemment, qui est une forme
pervertie de
l'amitié, et puis l'envers de l'amitié, qui est la haine aussi, car souvent, et ça c'est ce que raconte Virginie Despentes, que je cite, c'est que il y a aussi des gens qui ne votent pas pour un un bon écrivain, tout simplement parce qu'ils le haïssent pour des raisons personnelles, ou de jalousie, etc. Donc, si vous voulez, le sentiment qui me semble faire fonctionner tout ça, nos institutions et nos institutions littéraires, c'est, l'air de rien, l'amitié. Et donc, c'est aussi un livre qui explore ce sentiment-là.
L'amical, on parle d'amical, on parle de confrérie, mais les confréries, c'est plus compliqué. Là, hein. Mais l'amical. Ma dernière question, enfin, une de mes dernières questions, mais je pense que ça va être peut-être ma dernière question. Comment voyez-vous les prix à l'avenir, le prix du futur, les prix littéraires? Là, j'ai appris, là, à la radio ou à la télé, je sais pas, vraiment, avoir des caddies connectés. Alors, est-ce que plus tard, nous aurons des livres connectés qui décerneront, on verra nos... est-ce que les prix tels que nous les connaissons aujourd'hui vont rester tels qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont évoluer? Autrefois, vous aviez le prix des libraires, très estimé, ce fameux prix des libraires.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours, mais un peu moins. Donc là... vous avez les prix des lecteurs, c'est très important, les prix... comment voyez-vous, je ne sais pas, moi, dans les années très... dans le futur, cette notion de prix littéraire, est-ce que ça va être le lecteur qui va cliquer sur une application?
Comme on est dans une forme... pseudo-démocratique, hein, c'est-à-dire que le jury littéraire avec cette notion de vote, de scrutin, de double voix du président reproduit des mœurs électorales. Évidemment, certains, et ça a existé à partir des années 70, on s'est dit, le mieux, c'est la démocratie directe, entre guillemets, même si en réalité, c'est une démocratie indirecte. La démocratie directe, ça veut dire quoi? C'est qu'on va demander aux lecteurs de voter, c'est quel cas du prix France Inter,
le
livre Inter. Donc des gens écrivent pour solliciter d'être faire partie du jury. C'est le cas aussi du prix Elle. Et à l'arrivée, ça ne marche ni mieux ni moins bien que les autres prix, que le prix Goncourt. Puisque l'idée est toujours la même, c'est de faire vendre des livres. Si vous voulez, quand même, l'idée de ces grands prix, c'est de faire vendre des livres. Donc, tant qu'on reste dans l'idée du commerce, le fait est qu'on est dans un système qui fonctionne parfaitement, là. Si vous voulez, la rentrée littéraire, personne ne dit il faut arrêter avec cette gabegie. Personne ne dit c'est un scandale. Parce que pourquoi? Parce que ça marche. C'est que, à l'arrivée, le Goncourt va être décerné et il va se vendre.
Oui, mais on a parlé de, par exemple, pour les jurés, de faire des jurés par rotation, c'est-à-dire des jurés qui ne soient pas toujours les mêmes. Il y a eu cette idée quand même.
Il y a eu une pétition au début des années 2000 dans le journal Marianne. Le problème, c'est qui fait tourner les jurys? C'est que ça existe en Angleterre, par exemple. Mais le problème, c'est qui fait tourner les jurys. Il se trouve que le Booker Prize, puisque c'est celui-là dans nos balles, qui est un peu l'équivalent du Goncourt, mais en Angleterre, le Booker Prize est décerné par une entreprise. Booker, c'est une entreprise agroalimentaire, un peu l'équivalent de Nestlé, si vous voulez, en France. Donc c'est eux qui décident. C'est Nestlé, en l'occurrence Booker, qui dit, ils sont cinq au Booker Prize. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont cinq. Et c'est un éditeur, un journaliste, un libraire, je ne sais plus exactement. Mm-hmm. Avant, il y avait un homme de la rue. Vous imaginez, puis très vite, ils ont dit, non, on va arrêter avec l'homme de la rue, parce que comment le trouver, l'homme de la rue? Donc, c'est une personnalité, maintenant. Donc, ils sont cinq. Ils sont payés, d'ailleurs, pour le faire, pour lire quand même une centaine de livres. Et ça ne marche ni mieux ni moins bien. Il y a eu des accusations aussi contre le Booker Prize en disant que c'était toujours les mêmes qui étaient favorisés. Puisqu'il y avait deux écrivains, ils votaient pour des copains, évidemment. Donc
ça ne change pas le problème.
Non, si vous voulez, à partir du moment... Si vous voulez, la question centrale, c'est qu'on est, nous tous, dans une idéalisation de la démocratie. C'est peut-être juste la démocratie qui ne fonctionne pas bien et qu'il faut accepter la démocratie, comme disait Churchill, comme le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.
Ouais. Vous avez des pronostics là pour les prochains prix, le Goncourt, ça va peut-être...
Pour le Goncourt, depuis le mois de juillet, je dis que c'est Jean-Philippe Toussaint qui devrait l'avoir pour l'Échiquier. C'est-à-dire que c'est ce que je pense, moi, mais je pense aussi que c'est ce que va faire le jury Goncourt. Après, c'est quand même totalement incertain. Kevin Lambert, parce qu'il est québécois, a une prime, si vous voulez, puisque ce qu'on oublie, c'est que le Goncourt fait partie de ce qu'on appelle le soft power. pouvoir français, c'est-à-dire c'est quasiment une arme diplomatique. Donc si vous le donnez à un Québécois, c'est important pour la francophonie, hein, l'idée de francophonie. Donc il a ses chances. Gaspard Koenig, parce qu'il fait un livre qui parle vraiment de l'écologie et qui est le sujet central du moment, pourrait lui aussi l'obtenir, même si à mon avis dans la fabrique même de son roman, il y a quelque chose d'un peu vieillot, pseudo-balzacien qui fonctionne pas très bien. Donc voilà, moi je mon préféré c'est Jean-Philippe Toussaint, qui est un immense écrivain,
oui, oui.
Que je lis depuis son premier roman. J'avais 18 ans quand il a paru. Et il a bien confirmé qu'il était un grand écrivain depuis. Voilà.
Merci à vous, Arnaud Vivian. Là, j'espère qu'on vous verra la prochaine fois avec un roman, votre roman.
C'est prévu.
Bon, formidable. J'en profite pour, alors, je dis aux auditeurs d'acheter Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire. Et puis aussi, ils peuvent lire Le Cantique de la Critique, c'est ça, Arnaud Vivian ?
Absolument,
c'est
oui.
Paru chez le même éditeur, les éditions La Fabrique.
C'est aussi court.
C'est aussi court, bah, c'est très bien, c'est très bien. J'en profite pour annoncer, donc la semaine dernière je vous avais déjà annoncé la lecture d'André Chédid, des textes d'André Chédid, donc c'est aujourd'hui même à 19h30 précis, c'est Michel Venard qui va lire des textes d'André Chédid au théâtre Pandora, 30 rue Keller dans le 11e, c'est il y a une chose à payer, mais enfin bon, si vous venez, c'est le code de rue, je vous donne 1973, et sinon il y a les mardis littéraires de Jean-Loup, alors là aussi, on en avait parlé une fois. Donc le 10 octobre, donc c'est au Café de la Mairie, les mardis littéraires de Jean-Loup à 20h, tous les mardis à 20h, c'est pas compliqué. Vous allez en haut, dans la place du haut du Café de la Mairie. Il y a juste une consommation à prendre. Et donc le 10 octobre, En marche en petite rhétorique ambulatoire de Patrick Tudoré aux éditions Taillandier, et le 17 octobre, Le carnet noir d'Adrien de Monique Georget. Voilà. Accompagnement Jean-Claude Cayette, qui était venu ici nous présenter ces fameux mardis littéraires de Jean-Loup. Je vous dis merci à tous pour ce bon moment autour des prix littéraires. Je ne sais pas quel prix on pourrait primer, quel est le prix le plus inventif, mais sans doute d'autres prix vont encore se créer. Vous pouvez écouter l'émission Bibliomanie sur le site de Radio Libertaire, télécharger le podcast et en parler aux amis de vos amis. Je remercie Flo Descailloux. C'était une émission présentée aujourd'hui par Valère-Marie Marchand qui vous dit à la fois prochaine. Merci à tous.
Mais d'abord, un dernier titre. Alors, on va y réessayer. On va voir ce diabolique Van Halen s'il passe sur une autre platine.
boulot. Et la directrice, c'est pas marrant parce que c'est plein de boulot, il y a des papiers, il y a des visites, il y a tout. Et j'aimerais bien qu'on n'embête pas mon bon docteur. Parce que lui aussi, il a des embêtements. Avec ceux qui lui ont défoncé sa voiture. C'est dommage, ça coûte très cher. Il faudrait qu'on lui fasse... C'est vrai, ceux qui font pas attention à lui, ils foncent dedans. Et bien voyons, il l'aurait tué, ça aurait été pire. Et puis, qu'il ne le traite pas de Rosenberg. Et puis, qu'il soit gentil avec lui. Parce que souvent, il y en a qui se fichent bien de lui, bien entendu. Ils sont contents quand même quand le docteur leur fait leur vaccin. C'était un homme qui est très gentil et qui a du cœur pour les gens. Mais les gens, eux, il y en a quelques-uns qui comprennent, mais les autres, alors là, il y en a